Fréquence Mistral.
Salut à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. Vous le savez, ici même dans nos studios de Marseille, on a le plaisir de voir passer le gratin de Marseille. On voit passer toute la culture marseillaise, tous ceux qui font vivre et vibrer cette ville. Et des fois, on utilise nos cervelles et on reçoit des gens qui ont fait beaucoup d'études et qui viennent nous parler de sujets bien plus compliqués que ceux qu'on aborde d'habitude. Mais aujourd'hui, on a une docteure en socio-anthropologie, en la personne de Juliette Roguet. Juliette Roguet qui nous revient d'un voyage, puisqu'elle est partie au Pérou faire une enquête sur les séducteurs professionnels dans le tourisme. Donc c'est un vaste sujet et elle y a mis son regard de chercheuse et pour en faire un livre, un ouvrage qu'elle vient de sortir aux éditions La Découverte, Jouir de l'exotisme. On va aujourd'hui parler de ce livre et de cette enquête. Bonjour à toi Juliette Roguet.
Bonjour Yacine, merci beaucoup de m'inviter.
C'est un très grand plaisir de t'avoir dans nos studios. Déjà Juliette, félicitations puisque tu viens de mettre au monde cet ouvrage issu donc de cette enquête, issu d'une thèse qui a duré un paquet d'années si j'ai bien compris. Donc déjà, félicitations à toi.
Ah merci, effectivement c'était très long. Oui,
ouais, c'est les thèses, hein. On sait que dans vos milieux c'est toujours sur du temps long parce qu'il faut prendre du temps pour comprendre ces idées, les articuler et ensuite les présenter. Justement, cette enquête sur les séducteurs professionnels, est-ce que toi déjà tu peux présenter ce livre, expliquer comment est née l'idée de cette enquête, expliquer ce que c'est que Jouir de l'exotisme?
Bien sûr, alors c'est le livre de ma thèse que j'ai soutenue en 2021, donc j'ai mené une enquête sur un groupe d'hommes dont le métier est de séduire des touristes étrangères, des touristes plutôt blanches qu'ils appellent gringa, dans l'espace touristique péruvien. Donc en fait, comment je me suis mis à faire cette enquête-là, c'est que j'habitais déjà au Pérou depuis plusieurs années. Et moi, j'ai fait une première enquête pour mon master 1 que je faisais en échange au Pérou sur le néo-indianisme. Alors qu'est-ce que c'est que le néo-indianisme? C'est la façon de mettre en scène la culture ou les cultures péruviennes dans l'espace social touristique, c'est-à-dire pour présenter, performer les cultures locales pour séduire les touristes ou être à la mesure des attentes touristiques. Donc moi, j'ai étudié ça, donc c'est une hybridation culturelle dans le milieu touristique. Et en fait, parmi toutes les manifestations du néo-indianisme, eh bien les bricheros, donc ces séducteurs, viennent incarner ce néo-indianisme et performer l'authenticité et l'exotisme à la mesure du regard occidental. Et donc, du coup, j'ai découvert cette pratique et ensuite, je me suis consacrée à l'étudier. Et en fait, j'ai découvert aussi l'existence de ces séducteurs parce que, après 2 ans passés au Pérou, je me suis rendu compte que tous mes amis étaient des bricheros et que je ne savais pas que ça existait. Et de fait, parce que moi-même, j'étais et je suis toujours une étrangère, une gringa blanche au Pérou, forcément dans mon environnement, là où je traînais, dans le milieu expatrié à Arequipa notamment, j'étais entourée de ces séducteurs professionnels. Et du coup, il s'avère que beaucoup d'entre eux étaient mes amis et qu'ils avaient une très grande réputation de séducteurs, donc ils m'ont permis d'accéder à leur réseau, à leur collectif, de comprendre comment ça marche et de mener mon enquête de terrain de façon très confortable parce que déjà, il y avait une grande confiance qui était liée entre nous. Donc juste une petite parenthèse parce que je parle de bricheros, donc c'est le nom de ces séducteurs professionnels. Donc il y a plusieurs théories sur l'origine de ce nom et il y en a une quand même qui fait le plus consensus, c'est que bricheros, ça viendrait de l'anglais bridge, c'est-à-dire faire le pont entre le Pérou et l'Occident. Okay. Donc c'est une pratique initialement, sont des jeunes hommes qui voulaient sortir du Pérou alors qu'il était traversé par une grave crise politique et économique dans les années 80. Et du coup, les touristes qui venaient voyager en sac à dos, elles étaient considérées comme une des rares portes de sortie à une situation très difficile.
Ouais, une manière de fuir le pays, si on comprend bien. Justement, je voulais savoir, puisque tu l'as dit, tu as passé 2 ans sur le terrain, donc 2 ans au Pérou, plus que 2 ans, combien d'années?
J'ai passé 6 ans en tout.
Ah oui.
Donc j'ai commencé mon enquête alors que ça faisait déjà 2 ans que j'habitais là-bas. Ensuite, j'ai repassé 2 ans pour mes masters et puis j'ai fait 2 ans d'enquête de terrain pour la thèse.
Ah oui, donc, une bonne connaissance du terrain, ouais, on va dire, puisque ouais, tu as été présente longtemps sur le terrain. Je voulais savoir comment était née l'idée justement d'enquêter, parce que tu en parles un petit peu, tu t'es rendu compte qu'il y en avait beaucoup autour de toi, mais comment on passe de, on va dire, voyageuse, ou en tout cas une gringa dans les terres péruviennes, à d'un coup une sociologue qui fait une enquête. Comment on passe de l'un à l'autre?
Bah oui, ça a été tout. Alors moi, c'est vraiment un fil rouge de mon travail parce que c'est vrai que parfois en sociologie, donc déjà en sociologie, en anthropologie, on étudie des phénomènes sociaux, on essaye de décortiquer ce qui se cache derrière des pratiques, derrière des comportements, pourquoi il y a des régularités, pourquoi on se comporte comme ça ici et pas comme ça ailleurs. Donc moi, j'ai vu cette pratique, je me suis dit, tiens, il y a des séducteurs qui gagnent leur vie en draguant des blanches, mais elles sont pas tellement au courant qu'elles sont dans un échange économico-sexuel. Donc ça m'a attiré beaucoup de curiosité. Mais parfois, on étudie des choses qui sont très loin de nous. Moi, en l'occurrence, j'étudiais le milieu dans lequel j'ai évolué. Donc en fait, j'ai transformé mon quotidien en objet d'étude, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, on étudie des choses qui sont très lointaines. Donc, quand en sociologie, on dit que quand on étudie des choses très lointaines, l'idée, c'est de rendre familier quelque chose d'étranger en posant un regard sur quelque chose que l'on ne comprend pas. Moi, j'ai dû rendre étranger quelque chose de familier, c'est-à-dire mettre à distance quelque chose de ma vie quotidienne et aussi... surtout me prendre moi-même en objet d'étude. C'est-à-dire, j'étais, comme tu dis très bien, à la fois chercheuse et à la fois objet de mon analyse, quoi. J'avais la double casquette en permanence. Donc, ce qui rend ma recherche assez particulière et puis surtout qui m'a obligée à avoir un regard réflexif très fort sur moi. Et puis...
Tu étais dans le bain et il fallait analyser la baignoire, donc il fallait quand même réussir à en sortir de temps en temps pour essayer de se regarder, de voir ce qui se passait. Ouais.
Meilleure métaphore, c'était exactement ça, sauf que du coup, quand tu es dans le bain, bah, tu sens la température de l'eau, tu n'as pas besoin de l'imaginer, donc tu as les sensations et l'expérience, elle est très parlante, mais effectivement, pour qu'on puisse réaliser une analyse la plus objective possible, il faut savoir sortir du bain et se regarder faire. Donc ça, on a plein d'outils d'analyse, hein, des données. Mais oui, effectivement, moi, j'ai passé 2 ans à partager le quotidien de ces séducteurs et 2 ans à vivre dans des auberges de jeunesse au Pérou. Donc moi, j'ai travaillé dans 4 villes différentes. Lima, Cusco, Arequipa et Mancora, qui sont 4 villes touristiques, puisque moi, j'ai passé la plupart de mon temps avec... Il y a plusieurs catégories de séducteurs. Et moi, celle avec laquelle j'ai passé le plus de temps, ce sont des séducteurs donc néo-indiens qui ont souvent d'autres métiers que séducteurs.
Ils ne sont pas que séducteurs. Hein. Ils n'ont pas une carte de visite séducteur qu'ils donnent aux touristes quand ils arrivent.
Non, la carte de visite qu'ils donnent aux touristes, c'est d'être artisan. Donc, ils fabriquent des bijoux, ils font musiciens, ils font du cirque, ils sont guides touristiques. Et en fait, c'est un petit groupe qu'on appelle les Waiki, puisque Waiki, c'est un terme quechua, parce qu'au Pérou, il n'y a pas que l'espagnol qui est parlé, il y a un très grand nombre de langues autochtones. Mmh. Et la langue la plus parlée au Pérou après l'espagnol, c'est le quechua. Mmh. Et du coup, les séducteurs, même si eux ne grandissent pas dans des communautés où on parle le quechua. Généralement, ils grandissent en ville et ils sont plutôt locuteurs de l'espagnol. Ils parlent quand même certains petits mots en quechua aussi pour performer cette indianité.
Ouais. Quand et tu dis performer, juste pour le vulgariser, c'est pour jouer en gros. C'est pour donner l'image qu'on attend d'eux sur ce terrain-là.
Exactement, c'est comme un jeu d'acteur, sauf qu'il y a une certaine forme de sincérité aussi. Mais bon, comme d'ailleurs dans les acteurs qui jouent au théâtre, il y a une forme de sincérité.
Et comme dans les masques sociaux qu'on porte toute la journée, on le sait, oui.
C'est pas une performance, ça veut pas dire qu'on y croit pas. Mais en tout cas, il y a le fait d'essayer de se mettre en scène pour répondre à des attentes, à un regard, à une situation. Et puis, voilà, c'est un jeu social.
Non, mais c'est vrai que c'est, moi, ce qui m'a interpellé, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est vrai que pour parler seulement de clichés, mais quand on pense à des séducteurs professionnels, alors bien sûr, on a du côté masculin, entre guillemets, le tourisme sexuel dans les esprits. Tout le monde se dit, bon, la Thaïlande, Madagascar, etc. Quand les hommes, des vieux hommes vont là-bas, souvent, on a les clichés qui viennent de suite et qui sont pas toujours faux. Mais c'est vrai que quand on pense aux séducteurs masculins à l'étranger, moi, je sais que les premières visions que j'ai eues, c'était Cuba, le classique, le Cuba, tout ce qui est île des Caraïbes, un petit peu l'Amérique du Sud, mais type Argentine au Brésil. Mais c'est vrai qu'on pense pas au Pérou. On visualise pas le Pérou en tant que cliché. Hein. Donc, c'est vrai que ces femmes-là, elles y vont pas avec, j'imagine, cette idée, en tout cas, de trouver un séducteur péruvien, parce que on n'a pas l'archétype du séducteur péruvien en tête, quoi.
Exactement, exactement, et c'est ça qui fait un petit peu la particularité, parce qu'en fait, comme tu l'as très bien dit, tourisme sexuel ou tourisme de romance, ça existe en fait dans tous les pays touristiques, parce que quand il y a des très fortes inégalités entre des gens dans un tout petit espace restreint, hein, ouais. Des gens très précaires qui galèrent et des touristes très riches qui arrivent, bah forcément l'intimité c'est un des moyens pour essayer de s'en sortir, pour ouais. essayer de gagner de l'argent. Donc dans tous les endroits où il y a des gens riches et des gens plus pauvres, forcément ça existe, mais ça prend des formes particulières en fonction des pays qui accueillent les touristes, et puis surtout aussi en fonction de l'histoire coloniale, en fonction de qui voyage.
Le cliché hérité.
Exactement, et donc du coup, effectivement, les touristes qui partent au Pérou n'ont pas du tout cet imaginaire géographique, comme on dit en anthropologie, un imaginaire géographique sexualisé ou érotisé, contrairement, comme tu l'as dit, à Cuba ou en République dominicaine, où là, pour le coup, des femmes partent là-bas avec quand même une attente de rencontres érotiques ou sexuelles. Et donc, ouais. du coup, comme elles ont ces attentes-là, les négociations, elles sont beaucoup plus explicites.
Oui.
C'est-à-dire que comme elles s'attendent à peut-être à rencontrer des séducteurs sur la plage qu'on appelle des Beach Boys...
Ah oui, c'est ça, les Beach Boys, voilà. J'avais entendu.
Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, notamment sur Zanzibar par une sociologue à Altaïr des Prés. Et du coup, les négociations, elles sont plus explicites au Pérou. Les touristes ne partent pas du tout avec ces attentes-là. Justement, elles partent avec des attentes liées à l'ancestral, au mystique, à la culture inca, au New Age, à quelque chose assez peu érotique. Et du coup, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est la performance de néo-indianisme, c'est ça, c'est d'essayer de donner aux touristes ce qu'elles attendent de voir, aussi bien dans le corps, donc ce sont des jeunes hommes qui ont les cheveux longs, beaucoup de tatouages, beaucoup de bijoux, vraiment, ils sont assez impressionnants quand on les découvre pour la première fois et qu'on n'a jamais, par exemple, été en Amérique latine. Comme on a un regard extrêmement naïf hein, et que les touristes d'ailleurs connaissent très peu l'histoire du Pérou quand elles y partent, hein. Moi, je me mets dans le sac, hein.
Oui.
Quand je suis partie la première fois, je ne connaissais absolument rien du Pérou que je découvrais, donc eux ils vont mettre en scène donc, dans le corps mais aussi dans les récits, donc ils vont raconter plein de mythes sur la... enfin, sur les cosmovisions andines, les cultures précolombiennes, etc. Donc, ils vont performer l'exotisme qui n'est pas érotique, et donc, du coup, ce qui implique qu'il va y avoir très peu de négociations explicites.
Ouais.
C'est-à-dire, le rôle des bricheros, c'est de fasciner, puis d'érotiser cet exotisme, de faire tomber amoureuses leurs partenaires ou de les séduire, et ensuite d'essayer de gagner de l'argent sans jamais expliciter la négociation, c'est-à-dire il va jamais y avoir de service sexuel ou romantique explicitement négocié contre de l'argent, quoi. Ça va être toujours un jeu de non-dits, des négociations silencieuses, puisque initialement les touristes ne partent pas avec cette idée-là. Donc en fait, c'est ça qui m'a vachement intéressée, c'est que les touristes femmes n'ayant pas d'attente érotique et ne souhaitant pas être des clientes de tourisme sexuel, et ces hommes-là étant dans le stéréotype des Incas et des néo-indiens et ne souhaitant pas être des prostituées. Il va y avoir un jeu de positionnement pour essayer que aussi bien les touristes comme les séducteurs y trouvent leur compte d'une certaine façon et d'essayer de redonner du sens à ce qui se passe ou de eux gagner de l'argent, elles vivre une belle aventure. Et en fait, ça va vraiment être un jeu de placement, toujours essayer de redonner du sens à ce qui se passe dans cette aventure. Et du coup, en voyant comment cette histoire est pensée et vécue par les partenaires, j'ai observé un peu comment l'intimité, le désir et le plaisir est fabriqué par le social. Voilà.
Ouais, c'est fascinant, hein. C'est vrai que c'est... Mais moi, je pense à ces Bridget Jones, je pense que je suis... je pense comme tout le monde assez fasciné par ces hommes qui ont réussi à performer, comme tu dis, leur exotisme et à l'utiliser. Est-ce que c'est pas des sociologues d'une certaine manière? Parce que pour réussir à comprendre ce qu'attendent des femmes qui arrivent justement, tu l'expliquais, avec beaucoup de désirs, de clichés, etc., et de... entre guillemets, rentrer exactement dans la case attendue et ensuite de réussir à passer sur un rapport de séduction. Enfin, je pense que pour toute personne, c'est quand même fascinant d'y arriver, quoi. Il faut quand même bien cogiter derrière, parce que autant la prostitution dans l'autre sens, enfin, ou comme on l'imagine, le tourisme sexuel du côté masculin, c'est clairement un échange d'argent avec négociation et c'est très simple. Autant là, on arrive dans des rapports très complexes entre humains.
Exactement, exactement. C'est vraiment des fins observateurs du monde touristique et aussi des rapports de pouvoir que ça implique, quoi. C'est-à-dire que, bon, d'une part, tu as tout à fait raison, ils sont de sociologues parce qu'ils savent repérer les touristes en fonction de leur origine, donc où est-ce qu'elles vont, dans quel hôtel, en fait, il y a toute une sorte
d'organisation. Francophone, germanophone, etc. Ils arrivent à même catégoriser en fonction de...
Ils ont une sorte de catégorisation très...
C'est pas des gringas en tas uniforme, c'est vraiment, ils ont pour eux, ils ont, en fonction de la nation, ils savent comment se comporter.
Bah, déjà, il y a une hiérarchisation en fonction des nationalités, c'est-à-dire qu'il y a des gringas... plus ou moins valorisés, c'est-à-dire par exemple...
Pour leur pouvoir d'achat ou pour...
Pour leur pouvoir d'achat, okay. Pour le prestige aussi. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ce qu'ils retirent, c'est des cadeaux, hein. Ils se font entretenir, des petits versements, donc il y a une dimension matérielle, mais il y a aussi un prestige social qui est retiré de ces histoires-là, parce qu'il faut savoir que le Pérou est un pays... avec une structure sociale extrêmement raciste, hein. Donc du coup il y a une valorisation extrêmement forte de la beauté qui repose sur des critères racistes, hein. Donc les blancs aux cheveux clairs et aux yeux clairs, donc du coup plus elles sont blondes, plus elles sont valorisées, donc par exemple plus elles sont blondes et plus elles sont riches, donc entre guillemets, pour lui donner un exemple très clair, c'est les Suisses qui sont les plus valorisés dans le tableau de chasse.
Et j'imagine l'Europe du Nord, danoise, suédoise, etc. Ouais,
voilà, exactement. Donc ça, c'est une catégorisation de ces femmes-là. Donc ils savent repérer où elles vont et puis comment elles sont habillées. Hein. Il y a donc moi, j'ai fait énormément d'entretiens, donc je peux citer un peu de mémoire ce qu'ils m'ont raconté. Ils me disent, moi, je sais si je dois lui parler d'archéologie parce que je vois qu'elle est habillée un peu comme une baba cool. Si elle est habillée en mode trekking, je vais lui parler des ruines incas et tout. Et en fait, ils savent ajuster exactement leur discours en fonction du profil socio-économique et culturel de la touriste. Si c'est et souvent, généralement, c'est un peu des touristes en sac à dos, baba cool, plutôt de gauche, qui viennent au Pérou pour une sorte de rituel de passage, pour se découvrir elles-mêmes, dans un voyage thérapeutique avec une idée qu'elles vont découvrir un monde en dehors de l'Occident, tu vois, cristallisé un peu dans le passé du développement, qui est en fait une pensée très... essentialiste et colonialiste, hein, bien sûr.
Comme on fantasmait l'Orient à une époque.
Voilà,
aussi,
ouais, c'est le fantasme de la culture péruvienne et eux sont tout à fait lucides là-dessus, mais vraiment très lucides.
Et même cyniques d'une certaine manière.
Et même extrêmement cyniques. Et donc, du coup, ils vont d'une part utiliser cette lucidité pour gagner de l'argent, c'est-à-dire qu'ils vont en gros appuyer là où ça fait mal en essayant de faire se sentir mal et de faire culpabiliser les touristes en leur disant « bah voilà, vous, vous êtes bien mignonne, vous venez voyager dans notre pays, mais en fait, ce que vous faites, c'est du tourisme dans des sociétés postcoloniales, vous venez consommer notre culture exotique, vous restez 15 jours, puis vous vous barrez, et vous avez l'impression de régler quelque chose si vous travaillez une semaine dans une ONG ou un truc comme ça. » Et du coup, avec ce discours-là, une des premières réactions, c'est de culpabiliser et du coup de donner pour essayer de dire « Non, non, mais en fait, je ne suis pas comme ça, moi. Je ne suis pas une mauvaise touriste occidentale. » Donc, elles vont donner pour essayer de, justement, régler quelque chose. Donc, eux, ils vont vraiment travailler sur cette culpabilité blanche pour gagner de l'argent. Et par ailleurs, ils vont aussi justifier le fait de se faire entretenir par des femmes où entre eux, ils vont dire « Nous, on fait ça parce qu'on se venge de l'Occident qui nous a tout pris. » Oui. Donc, on peut se faire entretenir par des femmes parce qu'en fait, on reprend ce que leurs hommes blancs nous ont pris.
Oui. De toute manière, toute personne qui sait qu'il agit un petit peu mal, que ce soit dans toutes les cultures, j'ai l'impression de trouver toujours une justification. Alors, on l'entend, hein, la justification, elle fait sens aussi quand on sait ce qu'on vécu. Mais justement, moi, j'avais une question là-dessus sur ces British Heroes. Déjà, est-ce que c'est véritablement des descendants d'Indiens ou ils jouent ce rôle-là ou est-ce que, parce que ça, c'est une question, ce que tu dis, ils performent ce néo-indianisme. Indianisme. Ouais. Est-ce qu'ils sont forcément indiens, justement?
Alors bon, c'est une question très délicate parce qu'il y a un très grand métissage au Pérou. Ouais, hein, donc d'ailleurs au Pérou et ici, qui est... Tu vois, c'est une question, est-ce que ici, qui est purement machin ou machin, c'est très délicat à dire.
Ouais, tu vois. Bienvenue sur Radio Facho. Aujourd'hui, on va analyser les gènes de tous nos invités.
Mais le fait est que je peux, moi en tant que sociologue, ce qu'on regarde c'est des données objectives, le plus objectif possible, sur des parcours de vie quoi. Donc ce que je peux te dire c'est qu'ils ont tous grandi en ville, et pas en petite ville, plutôt en grande ville. C'est des citadins qui parlent espagnol, dont les parents sont plutôt de la classe moyenne. Et pour la grande majorité d'entre eux, ils ont fait des études supérieures.
Ok.
Si je peux donner quelques informations, toujours, je repense toujours à mes données issues d'enquêtes
hein, oui,
pour
bien
raconter
sûr,
les choses. Tu vois, eux me disent qu'ils étaient trop racisés, trop cholos ou trop indiens physiquement pour séduire des blanches péruviennes.
Ah, oui.
Et que du coup, ça a été une forme de révélation à la fois romantique et sexuelle et sociale, d'arriver dans le milieu touristique et de se dire, en gros, je cite, avec mon apparence d'Indien, donc un peu des traits marqués quand même, qui me vaut énormément de racisme dans la société au quotidien, là, dans le milieu touristique, j'étais désirée pour ça et voire même on me payait pour
c'est presque une inversion, c'est surprenant. Enfin, j'imagine que d'un coup, on passe d'un rôle à l'autre, en fait, complètement, dans la même société. C'est ça qui est incroyable. Mais je voulais en parler avec toi d'un côté plus personnel. Je vais être rogué, mais toi, en tant qu'enquêtrice, comme on l'a dit, tu étais dans le bain, donc tu étais sur le terrain. Mais est-ce que c'était pas dur, justement? Est-ce que tu n'as pas eu des hésitations ou des doutes à faire cette enquête? Parce que c'est dévoiler aussi, d'une certaine manière, l'envers du décor, ou en tout cas, de montrer les tours de magie des magiciens. Si, voilà, c'est une métaphore juste. J'utilise des fois des métaphores un peu douteuses, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas généré des doutes ou des hésitations à venir dévoiler ce monde-là, ou en tout cas cet envers du décor. D'un point de vue personnel sur les amis, en fait, que tu t'es fait surtout. Hein.
Alors, bien sûr, donc ça, c'est vraiment... Alors, il y a eu de nombreux doutes, ça en a fait partie. Bon, le fait est que quand même en socio et en anthropologie, on utilise vraiment des méthodes d'anonymisation pour protéger les gens qui se sont confiés à nous. Donc, il n'y a aucun moyen de reconnaître les personnes qui ont témoigné dans mon ouvrage, parce que j'y ai prêté un soin très minutieux. Néanmoins, oui, effectivement, je dévoile la pratique. Mais ce qui est assez... enfin ça c'est, j'en suis pas certaine, mais je pense que le fait de la dévoiler, ou en tout cas d'expliquer les mécanismes qu'elle sous-tend, ne va pas faire qu'elle va disparaître oui. pour autant du tout. Et puis bon, on parle de... Déjà, je ne sais pas si elle va avoir un retentissement suffisant pour impacter ce qui va se passer là-bas. Mais oui, ça m'a... Enfin, de toute façon, ça, c'est le propre de tout chercheur en sociologie ou en anthropologie. On se pose des questions sur ce que notre enquête va provoquer. Moi, le doute que j'ai beaucoup eu, surtout celui qui a traversé toute ma recherche, c'est sur mon positionnement de femme blanche. C'est-à-dire, je me suis étudiée moi-même parce que je fais partie de mon objet d'étude. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat ce positionnement de blanche française qui va décortiquer une pratique au Pérou. Donc ça a été un positionnement sur le fait de révéler quelque chose, mais c'est aussi un positionnement sur effectivement qui suis-je pour parler de ça. Mais bon, le fait est que j'ai fait énormément de terrain. Donc, c'est toujours des doutes qu'on a, mais le fait est que, bon, on a des méthodologies qu'on applique avec des outils pour essayer d'être le plus rigoureux possible. C'est pas, enfin, chaque analyse que j'ai fournie est fondée sur à la fois des données qualitatives, des données quantitatives, des protocoles d'analyse de données extrêmement rigoureux. C'est, ça fait, on est à peu près à 6 ans de réflexion avant d'écrire tout ce que je vais écrire. Mmh. Donc il n'y a rien de gratuit. Autrement dit, moi, si je me permets de dévoiler cette pratique qui est censée être secrète, c'est parce que je pense qu'elle nous permet de comprendre notamment comment des rapports sociaux de race, de classe et de genre viennent façonner l'intimité et comment l'histoire coloniale vient façonner des désirs et des pratiques dans le tourisme. C'est-à-dire, en gros, je pense que le jeu en vaut la chandelle et que, d'une part, j'espère que cette enquête... permettra de comprendre des choses et que le jeu en vaudra la chandelle, quoi, entre guillemets.
Et est-ce que, alors ça c'est aussi une curiosité que j'ai là maintenant que je me pose, mais est-ce que ce livre est traduit en espagnol ou pas ?
Alors ça va être traduit, ça m'a été proposé par plusieurs personnes et plusieurs institutions péruviennes, et oui, c'est vraiment un de mes objectifs de le traduire et de le diffuser
dans le pays, dans le pays où l'étude a été faite. Mais justement, est-ce que tu as eu un retour d'un bricheros qui aurait lu ou vu ton travail et qui t'a fait un retour dessus ou pas ?
Bah ouais, en fait, c'est surtout que j'ai beaucoup travaillé en collaboration avec eux, autrement dit.
Oui, pour les entretiens, etc.
Ouais, pour les entretiens, et puis même j'ai encore des contacts très réguliers avec beaucoup d'entre eux, parce que, comme tu disais tout à l'heure, ils sont sociologues, mais ils sont sociologues. En fait, s'ils ont accepté de se confier autant à moi, c'est parce que c'est des questions qui les travaillent beaucoup aussi, c'est-à-dire le fait, par exemple, de ressentir du désir pour les femmes blanches tout en étant eux-mêmes extrêmement militants ou engagés à gauche ou sensibilisés à des discours décoloniaux et se rendent compte vraiment avec une grande finesse des rapports de pouvoir qui traversent tout ça. Et néanmoins, ils sont encore imprégnés de ce racisme très fort. Et donc, du coup, ils ont aussi à cœur de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Et du coup, toute mon enquête, elle a vraiment été faite en collaboration, parce que c'est même eux qui se posaient des questions sur leur propre pratique, tu vois, et qu'ils avaient un regard très lucide. Et du coup, il y a de nombreuses analyses que j'ai faites en débat, en discussion avec eux. J'ai pas juste décortiqué ce qu'ils m'ont dit il y a 10 ans. C'est-à-dire, on s'appelle, on discute de tout ça, de mes analyses. Et sinon... Oui, j'ai eu des retours j'ai donné à lire des chapitres en français à certaines personnes qui parlaient le français. Et ça a été des retours très touchants, voire, enfin, en tout cas, qui m'ont rassurée dans le fait que je dise pas de bêtises, parce que vraiment, ils ont été Et en fait, bon, une fois, par exemple, quelqu'un, un bricero ou un séducteur a lu un chapitre de mon travail. Et ce que ça a entraîné, c'est qu'il m'a raconté toute sa vie, quoi. Dans le moindre détail, qui s'est confié. Donc ça,
avec
ça
l'envie été... peut-être de se faire raconter son histoire, en fait, de la mettre sur
ouais,
de la graver, quoi.
Du coup, je me dis que si la première réaction, ça a été de se confier à moi, c'est que mon analyse, elle était en accord avec son expérience et que ça lui a donné confiance. Donc c'était hyper rassurant pour moi, quoi, comme retour.
Alors, en lisant justement et en écoutant tout ce qui a été dit autour de ce livre, j'ai forcément eu la question qui m'est venue de me demander ces rencontres entre Bricheros et femmes occidentales, on va dire. Il doit bien y avoir, parce qu'il y a toujours des histoires d'amour qui sont nées, peut-être des familles qui en ont découlé, des enfants. Les Bricheros, du coup, performent et jouent un rôle pour séduire et on va dire d'une certaine manière se prostituer, mais il y a quand même, j'imagine, des fois des vraies histoires qui naissent de tout ça, non?
Ah bah bien sûr, de toute façon tout n'est, c'est tout, enfin
oui.
Tout est toujours
tout est
très
nuance,
compliqué,
oui,
tout est nuance, mais alors en fait ça existe comme un métier, enfin c'est selon leurs propres mots, hein, c'est vraiment un métier. Ils vivent en collectif et du coup, c'est le fait de vivre en collectif, c'est-à-dire d'être très souvent ensemble, de travailler ensemble, de vivre dans les mêmes hôtels, fait que ils apprennent ce métier entre eux. Et en fait, il y a des règles qui organisent cette pratique, notamment la première qui est celui qui tombe amoureux perd.
Ah oui.
Donc en fait, il y a un autocontrôle entre les copains. Où ils disent « Ah tiens, toi t'es en train de tomber amoureux de la gringa, là, fais attention parce que tu files un mauvais coton, quoi. »
Comme un dealer qui dirait « Consomme pas ce que tu vends. » C'est...
un peu, oui. Du coup, il y a un contrôle interpersonnel très fort, surtout avec cette règle-là, qui leur permet de se protéger aussi. Mais par ailleurs, évidemment, qu'il y a plein d'histoires d'amour qui en naissent. Et puis, en fait, c'est ça que moi, j'ai beaucoup... étudier, en tout cas ce que ça m'a permis de comprendre, c'est désir et intérêt, c'est pas des choses opposées. Amour et marchandisation, c'est pas des choses opposées. C'est-à-dire qu'il faut, ce que j'ai compris, c'est que les sentiments, les émotions, les désirs ne sont pas en dehors du social ou en dehors du politique, et que ils sont des phénomènes sociaux comme les autres, mais ça ne veut pas dire que les émotions, elles ne sont pas véritables. Et entre guillemets, on peut, il ne faut pas opposer argent et amour. Hein. Ça, je veux dire, il n'y a pas que au Pérou qu'on observe ça.
Bah
quoi.
Oui, on le voit très bien, ici même à Marseille.
Bien,
hein,
bah, bien sûr. Et du coup, il ne faut pas séparer calcul égoïste et passion érotique. En fait, tout est toujours très... On a l'idée comme quoi l'amour, c'est quelque chose qui est en dehors du social, quelque chose de pur, mais ça, c'est un discours romantique. Mais néanmoins, quand on regarde les relations amoureuses et en l'occurrence hétérosexuelles, que ce soit en France ou au Pérou, on voit bien que calcul, désir, intérêt, passion, sentiment sont toujours mélangés. Et que moi, je pense que c'est pas parce que y a les émotions ou le plaisir sexuel sont des manifestations des rapports sociaux qu'ils sont pas moins émotions et moins plaisir. C'est-à-dire au contraire même, les émotions, c'est une forme de liant et de pour huiler les mécanismes sociaux, quoi. Donc quand je dis que l'intime est politique ou que l'intime il est social, ça veut pas dire qu'il est moins intime, au contraire, quoi, tu vois. Donc du coup, évidemment qu'il peut y avoir calcul rationnel d'ailleurs de la part des touristes comme des Bricheros, parce que les touristes femmes y trouvent aussi leur compte, tout en ayant de réels sentiments, quoi.
Oui,
l'un n'empêche pas l'autre.
Tout le monde peut, tout le monde peut y trouver son compte parfois.
oui.
Justement, je voulais savoir s'il y avait des phénomènes. Alors, je sais que tu as enquêté toi sur au Pérou et sur ce terrain-là, mais est-ce que je voulais savoir si tu avais connaissance de phénomènes similaires ailleurs dans le monde quand je dis similaire, je ne parle pas simplement d'hommes qui séduiraient des femmes, mais avec cette idée de performer une culture, de jouer un rôle et de faire une sorte de séduction indirecte, comme tu en parles. Est-ce que ça arrive ailleurs dans le monde ?
Mais je pense que ça arrive tous les jours. Je pense que dans tous les dates Tinder de la Terre, ça arrive. C'est-à-dire qu'on performe toujours quelque chose. On performe sa classe sociale, on performe son genre, on performe son origine, on met en récit son histoire personnelle. Donc on va se donner à voir sous un certain regard pour séduire, et puis dans le fait de se donner à voir, il y a notre origine sociale, notre origine culturelle, notre façon d'être un homme, notre façon d'être une femme, enfin il y a tout un ensemble. En fait, on appartient en tant qu'individu dans une société à différents groupes, hein. On a un âge, on a un genre, on a une origine culturelle, une religion ou pas, etc. Enfin, on appartient à plein de groupes. Et du coup, cette appartenance, on va on la met tout le temps au jour en fonction des situations sociales. Et les situations de séduction, c'est une des situations sociales où on va mettre en scène l'ensemble de nos groupes d'appartenance d'une façon spécifique pour plaire à quelqu'un en fonction de sa place à lui ou à elle.
Et comment elle perçoit avec ses clichés
Voilà.
Ah ouais, ben alors, à quand une enquête de Juliette Roguet sur les plages du Prado avec des jeunes Marseillais qui séduisent des touristes en jouant les Marseillais, en performant le Marseillais?
Eh ben écoute, peut-être, si tu me trouves un financement, je le ferai avec grand plaisir.
Oui, parce qu'effectivement, ça peut être un terrain. Justement, j'avais cette question de, est-ce que toi, en tant que socio-anthropologue, est-ce qu'il y a des terrains de jeu, quand je parle de jeu, bien sûr, je parle de terrain de travail, mais de jeu que tu aimerais expérimenter ou tu aimerais faire des enquêtes sur d'autres sujets ou sur ce sujet-là, mais sur d'autres terrains? Imaginons que tes financements illimités en tant que socio-anthropologue, pendant 10 ans, on te met une enveloppe, qu'est-ce que tu ferais?
Alors là, moi, mon projet actuel, c'est d'essayer de... Parce que en fait, c'est les relations hétérosexuelles que j'ai étudiées dans ce livre. Hein. C'est vraiment des échanges. Et c'est une analyse intersectionnelle de l'hétérosexualité. Néanmoins, j'ai fait vraiment une grosse partie de l'enquête sur l'homosocialité. Donc, c'est-à-dire, en gros, les rapports entre hommes.
Hein, au Pérou?
Ouais, c'est-à-dire que j'ai vraiment tellement passé de temps en étant la seule femme parmi un groupe d'hommes que vraiment c'est les rapports de masculinité que j'ai beaucoup beaucoup étudié. Comment les hommes entretiennent des relations entre eux, comment ils sont à la fois très solidaires et très rivales. Y a comment s'organisent les rapports des hommes. Et du coup, j'aimerais... faire une enquête sur ces rapports de masculinité dans les trajectoires des légionnaires, dans la Légion étrangère.
Ah oui. Bon,
ça, c'est le projet que j'ai en ce moment, puisque à la Légion étrangère, c'est vraiment là où il y a une très forte... Enfin, les rapports de masculinité sont façonnés par... l'objectif de faire corps...
On dit un corps d'armée, d'ailleurs.
Voilà, corps d'armée. Néanmoins, il y a 140 nationalités différentes avec des trajectoires de vie extrêmement particulières. Donc, il y a des hiérarchies sociales et raciales qui viennent se tisser dans une institution qui doit faire corps sous la bannière de l'État français. Donc, c'est quelque chose de très fascinant et très intéressant.
Je suis déjà hypé, moi. J'ai déjà envie de le lire et de le découvrir. Ah ouais, écoute, c'est un vaste sujet. Félicitations à toi. Juliette Roguet, pour terminer, je voulais parler aussi, mais on en parlera plus prochainement dans une autre interview, mais je voulais quand même en parler dans cette interview-là. C'est qu'en dehors de tes activités de socio-anthropologue et désormais d'autrice pour ce livre, donc Jouir de l'exotisme, tu es aussi stand-upeuse, puisque tu fais de la scène, tu as un spectacle à Marseille qui marche très très bien, et tu fais tous les plateaux de la région avec succès. Comment on... Parce que je me suis toujours dit que un sociologue, un humoriste, c'est souvent un sociologue, en fait. C'est étudier avec un regard extérieur notre société, nos comportements, les comportements de ceux qui nous entourent. Donc, il y a ce regard-là. Mais comment on convertit cette étude-là et celle que j'imagine on a en continu quand on est sociologue en humour? En tout cas, comment on fait pour faire la bascule?
Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est presque le même métier. Hein. En tant que sociologue, on doit déplier le plus longtemps possible un comportement humain pour essayer de dévoiler ce qui s'y cache. avec les humoristes, on fait la même chose, mais en une vanne.
Ouais. Hein,
au lieu de... Il faut qu'on dévoile un comportement en étant le plus percutant possible. Donc, ce n'est pas la même dynamique, mais le principe, finalement, est le même. C'est de dévoiler les comportements humains et de montrer ce qui s'y cache, en fait. Et bien, je pense que la bascule, elle n'est pas forcément évidente, parce que c'est vrai que les sociologues et les anthropologues ou les chercheurs ne sont pas forcément réputés pour être les gens les plus drôles de la planète.
C'est vrai.
Et donc, du coup, effectivement, ce n'est pas quelque chose de très répandu, mais en tout cas, moi... Si j'ai réussi à mener mon enquête au Pérou avec les Bricheros, c'est en grande partie par l'humour.
Mmh.
Et du coup, pour moi, au quotidien, l'humour, parce qu'ils sont extrêmement drôles, hein, parce que, bon, voilà, ils sont extrêmement drôles. Et du coup, j'ai beaucoup ri avec eux. Et du coup, je sais pas, pour moi, l'humour, ça a toujours été une façon de vivre, en fait, et de rencontrer des gens. Et ça a toujours été un outil que je mobilise depuis toujours, qu'on m'a transmis, en fait, dans ma famille. Et donc, faute de trouver un poste dans l'enseignement supérieur, j'ai une nouvelle fois mobilisé l'humour pour essayer de continuer à faire de mon métier et d'en vivre, quoi.
Bah écoute, félicitations à toi, Juliette Roguet, donc Janice en flamme sur scène. C'était un plaisir de te retrouver sur cette antenne de Fréquence Mistral et on espère te retrouver prochainement pour l'interview sur ce spectacle, mais aussi pour cette enquête sur les légionnaires que j'attends déjà avec impatience. Donc le livre, on va quand même rappeler le titre de ce livre, donc Jouir de l'exotisme, très beau titre en passant, qui est donc aux éditions La Découverte. Il est dans toutes les bonnes librairies de Marseille et d'ailleurs, et on peut l'offrir à Noël, voilà, à notre cousin, cousine qui partirait en Amérique du Sud pour retrouver Pachamama et son soi intérieur et lui rappeler qu'il n'est pas le seul à le faire.
Exactement, merci beaucoup. Toutes les personnes qui ont voyagé et qui ont eu une expérience romantique ou un amour de vacances ou qui se posent des questions sur l'hétérosexualité, n'hésitez pas à acheter ce livre-là parce que je pense j'espère qu'il vous donnera des clés. Merci beaucoup Yacine de l'invitation.
Ben, c'est avec grand plaisir Juliette Roguet. Merci à toi et excellente journée à toi et à toutes et tous sur Fréquence Mistral ou ailleurs.